Ça sent bon chez vous.
C'est lundi, c'est ravioli.
Et vous restez dîner?
Moi, je veux proposer aux concitoyens qui ont moins de moyens une agriculture qui soit française, propre, saine et durable.
Mais comment prétendez qu'un castron propre et durable quand on met des pesticides pour tuer le vivant? C'est ça, le problème, il est là.
La chichoumeille de résistance. Ou comment se nourrir en milieu rural. Une émission de Dominique Paturel et Benoît Daviron.
Mais en fait, c'est ça notre mesure part. Manger bien pour rien.
Et vous écoutez toujours Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, Chichoumaï de Résistance, troisième émission, toujours en compagnie de Dominique Paturel et Benoît Daviron. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, la semaine dernière, Benoît, tu nous as un peu lancé sur le début, la genèse, le processus historique de l'agriculture au sens large. On va revenir sur une petite synthèse de cette émission, parce que ça date déjà d'il y a quelques temps. Mais avant cela, il se trouve qu'on n'a jamais expliqué le nom de cette émission. La chichoumaille de résistance. Alors peut-être ce mot vous dit quelque chose, en tout cas il n'a pas été choisi pour rien. Quelle est votre définition à vous de la chichoumaille, si je vous interroge, tiens?
Oh, la chichoumaille, ça se rapproche de la ratatouille, c'est la version languedocienne de la ratatouille provençale.
Ouais.
Je dirais ça comme ça, c'est-à-dire un mélange de légumes d'été mis ensemble avec des aromates de la garrigue.
Ça donne faim tout ça, dis donc.
Et de résistance, parce que... on situe finalement les questions d'agriculture et d'alimentation, et notamment ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, comme une forme de résistance dans les actes de la vie ordinaire. Et à travers ça, on est en train de construire du quotidien politique.
Parce que je reprécise, hein, bien évidemment, si vous tombez sur l'émission pour la première fois, que la thématique principale est l'alimentation. On va venir dans les émissions prochaines sur l'alimentation au niveau local, donc l'alimentation au sens large. Mais avant cela, il nous semblait important pour garnir cette chichoumaille de plein de choses qui vont venir agrémenter ces émissions, de commencer un peu par le début, à savoir un peu l'histoire de l'agriculture via ton domaine de recherche, Benoît. Alors, est-ce que tu peux nous faire une synthèse de l'émission du mois dernier? Qui a repris le fonctionnement des sociétés traditionnelles à l'époque.
Alors, résumé des épisodes précédents, de l'épisode précédent. Donc, en fait, j'ai parlé de métabolisme solaire et de métabolisme minier, donc je ne vais pas revenir sur la définition de ces métabolismes. Et après, pour développer les trois transformations qu'ont connues le rapport à la biomasse, dans le cadre du métabolisme minier. La première transformation, ça a été lié en fait à l'élimination, on pourrait dire, de la tyrannie de la distance, de la contrainte de la distance, qui a permis de s'approvisionner de plus en plus loin et de donner naissance à ce que j'ai appelé des fronts pionniers extrêmement dynamiques à l'échelle de la planète, donc des endroits de colonisation agricole avec des migrations massives de populations européennes ou asiatiques. Et qui a permis à l'Europe de se nourrir de manière croissante de produits qui venaient de très loin. Non seulement se nourrir, mais aussi alimenter ses usines, en fait approvisionner ses usines de biomasse alimentaire et non alimentaire qui venaient de très loin. La deuxième transformation liée au métabolisme minier, c'est l'invention, la création, la multiplication de produits de synthèse qui vont se substituer en fait à la biomasse non alimentaire. L'exemple le plus classique, c'est les fibres synthétiques qui vont se remplacer le coton ou la laine. Mais on a la même chose dans le coton. Puis avec les plastiques, les polymères et le plastique, on a un tas de produits qui vont remplacer le bois, tout un tas d'autres matériaux. Ce qui va avoir comme conséquence que l'agriculture va pratiquement se spécialiser uniquement dans la production de produits alimentaires et qu'on va finir par considérer que l'agriculture s'est faite pour se nourrir et juste pour se nourrir. Ce qui est vraiment une particularité du XXe siècle, et on en rediscutera certainement au cours de l'émission, qui est quelque chose qui pourrait être remis en cause dans les années à venir. Et la troisième caractéristique troisième transformation liée au métabolisme minier, mais que je n'ai pas fini, donc je vais pouvoir enchaîner là-dessus, c'était le fait que l'agriculture, finalement, et la croissance agricole est de plus en plus dépendue d'injections dans l'agriculture elle-même, dans la production agricole elle-même, de ressources minières. J'ai parlé des engrais avec la potasse, le phosphore, mais surtout, en fait, l'azote et cette révolution, on pourrait dire, de la question des engrais azotés avec la mise au point de la synthèse de l'ammoniac. En fait, le procédé Haber-Bosch qui est mis au point en 1913, qui va permettre de faire des engrais azotés en capturant l'azote de l'atmosphère, moyennant beaucoup de pression, beaucoup de chaleur, mais que fournit en fait le charbon, puis aujourd'hui le gaz naturel. Ce qui fait qu'on n'aura plus besoin d'aller chercher de l'azote au loin, comme on avait fait au 19e siècle en allant chercher le guano, par exemple, dans les îles du Pacifique, ou bien les nitrates du Chili. Donc, à partir du moment où on a du charbon, on peut, d'une certaine façon, à partir de ce moment-là, accroître les rendements de manière, pas illimitée, mais très importante, sur son territoire, si tant est qu'on ait du charbon et du pétrole pour fabriquer de l'ammoniac, enfin, pour fabriquer de l'engrais azoté. L'autre conséquence importante de cette histoire d'azote, c'est qu'on va pouvoir à ce moment-là aussi avoir une désintégration totale entre la production végétale et la production animale. On n'a plus besoin du fumier des animaux pour réalimenter ces champs en azote. On va mettre dans les champs des engrais azotés, du phosphore, de la potasse. Et donc on peut avoir une production végétale complètement désintégrée et une spécialisation donc des exploitations qui sur la production végétale, qui sur la production animale, sans avoir besoin d'intégrer les deux comme l'était l'agriculture jusqu'au 19e siècle, comme était le modèle européen en fait d'agriculture, où les animaux jouent un rôle essentiel dans l'entretien de la fertilité des sols. Deuxième grande innovation qui va transformer l'agriculture et qu'on peut associer au métabolisme minier, c'est le tracteur et son utilisation de carburant tiré du pétrole. L'invention du tracteur, la mise au point du tracteur, en fait, elle se fait en 1910 aux États-Unis, c'est le Fordson, qui va pouvoir nettement approfondir l'usage de tout un tas de machines qui étaient déjà en fait en partie utilisées dans l'agriculture américaine, en particulier au 19e siècle, du fait du manque de main-d'œuvre. Et on va voir donc le tracteur qui va s'imposer comme l'outil de base de l'agriculture. Aujourd'hui, agriculture égale tracteur pratiquement. Ça va remplacer le cheval, le mulet, le bœuf. Une des conséquences du point de vue de la production agricole importante, hein, qui est plus importante que ce qu'on pense, c'est qu'on n'aura plus besoin de cultiver de l'avoine, beaucoup moins qu'avant. Pour nourrir les chevaux, un cheval, si vous voulez le faire travailler en bête de trait, en fait, vous avez besoin de lui donner de l'avoine pour lui fournir de l'énergie, que ce soit pour transporter des gens en ville ou pour travailler dans l'agriculture. Et donc, ça va libérer beaucoup de surface. Dans le cas des États-Unis, par exemple, c'était beaucoup, beaucoup de surface en céréales qui étaient utilisées pour faire de l'avoine. Donc, tracteur, deuxième composante. Troisième composante liée au minier, c'est les pesticides. Les pesticides, donc, qui sont un produit de la chimie aussi, hein, de l'industrie de la chimie organique. Les premiers étaient des sous-produits, en fait, des gaz de combat. Donc, et apparaissent après la Première Guerre mondiale. Et après, on va reconnaître le succès qu'on connaît. Donc, sous pesticides, ayant d'un côté les fongicides qui vont permettre de lutter contre les champignons, les insecticides contre les insectes et les herbicides contre les adventices, les mauvaises herbes. En sachant que ce sont des produits qui, d'une certaine façon, au niveau de l'agriculture, ce sont des produits miraculeux puisque permettent de réduire énormément la quantité de travail nécessaire pour produire, en fait, à court terme sans produire. Le miracle plus général de l'agriculture, quelque chose qui semble miraculeux, je pense, pour les gens qui l'ont vécu après la Deuxième Guerre mondiale, surtout, c'est qu'on va voir une agriculture dont on va pouvoir à la fois augmenter le rendement, c'est-à-dire la quantité produite par unité de surface, et la productivité du travail, c'est-à-dire la quantité produite par heure de travail. Et ça, c'est aussi un changement radical par rapport à l'histoire de l'humanité et son rapport à l'agriculture. On peut presque dire que jusqu'au XXe siècle, le prix à payer pour augmenter le rendement, c'est-à-dire pour avoir plus de production par unité de surface, c'était de mettre plus de travail. Et encore plus de travail que l'augmentation de rendement qu'on avait. C'est-à-dire que toute augmentation de rendement se traduisait pratiquement par une baisse de la productivité du travail. Il fallait mettre plus de travail que le gain de rendement qu'on pouvait avoir. C'est pour ça, par exemple, une illustration de ça, c'est que les gens qui pratiquent de l'agriculture itinérante, c'est-à-dire de l'agriculture où ils passent tous les 30 ans dans la même forêt, où ils mettent le feu et après ils cultivent pendant 2-3 ans des produits alimentaires avant de se déplacer ailleurs, ont une productivité du travail, c'est-à-dire une quantité de calories produites par heure de travail bien plus importante qu'un agriculteur européen du XVIIe siècle. Bien plus importante. Ça demande beaucoup moins de travail, en fait. Et donc, par contre, ils ont un rendement beaucoup plus faible, puisqu'ils utilisent une très grande surface sous la forme d'une agriculture itinérante qui se déplace sur un très très grand périmètre. Et c'était une espèce de loi d'airain, en fait, qui caractérisait l'agriculture et l'activité agricole jusqu'au XIXe siècle, c'était que si on voulait augmenter le rendement, il fallait mettre plus de travail, et plus de travail que ce qu'on allait obtenir en gain de rendement. Une espèce de loi, de malédiction presque de l'intensification agricole. Or, avec le modèle de l'agriculture de la chimie qui émerge au XXe siècle, on peut à la fois augmenter le rendement et la productivité du travail. Ce qui va permettre beaucoup de choses sur lesquelles je parlerai plus tard. Mais un des prix de cette affaire-là, malgré tout, il y a toujours un prix, rien ne se crée, rien ne se perd, hein. C'est un effondrement du rendement énergétique de l'agriculture. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut réduire la quantité de travail qu'on met dans l'agriculture, et on peut avoir des rendements bien plus importants tout en mettant moins de travail, mais parce qu'on met beaucoup plus d'énergie qui vient de l'extérieur du secteur agricole dans l'agriculture. En fait, on injecte des quantités croissantes d'énergie en provenance du secteur des énergies fossiles dans l'agriculture, sous forme de pesticides, sous forme d'engrais azotés, sous forme de carburant, sous forme de machines, etc. etc. Et il y a des gens qui ont fait des travaux très sophistiqués là-dessus pour mesurer le rendement énergétique hein, de l'agriculture avant-après, hein, de l'agriculture du métabolisme solaire et du métabolisme minier. Et dans le cas de la France, par exemple, on passe d'un rendement de 5, c'est-à-dire que pour une unité d'énergie qu'on mettait dans l'agriculture, on en récupérait 5, un rendement au pire moment dans les années 70 où le prix du pétrole est vraiment pas cher, au début des années 70, où on est à 0,7, c'est-à-dire qu'on récupère moins d'énergie que ce qu'on en met. Mais ça n'a pas d'importance puisqu'on a plein d'énergie fossile qui n'est pas chère à cette période-là. Encore aujourd'hui, le rendement énergétique de l'agriculture, des agricultures dites industrielles, des agricultures de la chimie ou du pétrole, est très faible. On a un rendement très souvent de 1,1, c'est-à-dire qu'on récupère à peine la même quantité d'énergie mesurée d'un point de vue purement énergétique, hein, la même quantité d'énergie que ce qu'on a mis sous forme d'engrais, de machines, de pesticides, etc., etc. Hein. Ramener au niveau de l'assiette, ça c'est intéressant de savoir ça, on a un rendement de 15%, c'est-à-dire qu'il faut 6 unités d'énergie fossile, en gros, pour avoir une unité d'énergie alimentaire dans l'assiette. C'est un gouffre énergétique, en fait, qui ne vit que parce que l'énergie reste abondante. Hein. Le pétrole, aujourd'hui, est à $60 le baril. Ça reste nettement trop faible pour que le système puisse changer, en fait. On pourra en rediscuter, mais à ce prix-là, on peut largement gaspiller encore l'énergie, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour le résumé des trois de ce basculement vers le régime métabolique minier et des conséquences, des transformations que ça a générées au niveau de l'agriculture.
Est-ce que, Dominique, ce résumé et l'émission qu'on a fait le mois dernier, c'est un historique avec lequel tu es familière ou c'est quelque chose de... Que tu n'associais pas forcément à tes recherches auparavant.
Bah, en grande partie, cet historique était quelque chose que moi je connaissais très peu. Hein. C'est extrêmement intéressant de regarder ça dans la durée pour comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui et combien c'est compliqué d'aborder la question de la reconnexion entre l'agriculture et ce qu'on a dans nos assiettes. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire un peu dans ces émissions, hein. C'est de regarder est-ce qu'on peut bouger quelque chose, comment on peut le bouger, comment on peut poser les questions autrement. Et on voit bien à travers tout ce que nous a dit Benoît que ça reste quelque chose de très compliqué. Et que donc, finalement, aujourd'hui, on est dans une situation où c'est plus... à travers une conscientisation des processus politiques et des processus de décision démocratique qu'on peut espérer reposer autrement la question de la production agricole à l'échelle de la planète. Et on voit bien aussi que derrière tout ça, il y a une espèce de présupposé qui est que finalement, c'est normal hein, qu'une partie... de gros propriétaires, quels qu'ils soient, ou de grosses entreprises, quelles qu'elles soient, prennent la ressource agricole, ou en tout cas la ressource de la nature, comme étant gratuite et se l'accaparer complètement.
Oui, parce que d'après ce que tu viens de dire, Benoît, en fait, avec cette histoire de rendement, dès le départ, je sais que tu ne fais pas de théorie pour le futur, mais ça semblait un peu mal parti quand même avec ce déséquilibre aussi fort. Tu parlais tout à l'heure de l'énergie qu'on doit mettre, par exemple, à l'échelle d'une assiette, toute l'énergie qu'on met et ce qu'on récupère à la fin. Le déséquilibre est tellement important que, en fait, j'imagine qu'on se posait déjà des questions à cette époque-là, mais enfin, on part quand même sur des bases complexes là, à partir de ce moment-là.
Non, en fait, on ne s'est pas posé tant de questions que ça. Hein. Je ne sais pas si vous êtes peut-être un peu jeune pour une bonne partie de l'auditorien et pour toi, mais un gars comme René Dumont, qui va être ensuite une figure de l'écologie en France, a été un militant de l'agriculture industrielle dans sa jeunesse. Et en fait, l'implicite de tout ça, mais qui est peu visible, peu dans la tête des gens, c'est que l'énergie pas chère, on en a plein et qu'on en aura toujours. Ça reste aujourd'hui, on est en train de courir après une espèce de quête, encore une minute, monsieur le bourreau, de quête d'énergie pas chère sous forme de panneaux solaires, d'éolien, etc., etc. Je crois qu'on peut... Ça, c'est sans doute pas réaliste et c'est sans doute pas viable. Alors, il y a le nucléaire qui serait le jackpot dans l'affaire, mais... C'est sans doute une période de l'histoire de l'humanité très particulière et qui risque de se refermer, un de ces quatre, cette période d'énergie pas chère et qui explique la prospérité dans laquelle une partie du monde vit et une autre partie du monde aspire à vivre depuis maintenant une petite centaine d'années. Quoi.
Et c'est vraiment la nature comme ressource gratuite aussi.
Oui, et justement, vu que tu parles de la nature, Dominique, je trouvais intéressant ce que tu disais aussi autour de la définition de la biomasse. Alors, je suis désolée, je saute un peu d'un coq à l'âne, mais parce que du coup, toi, tu avais une vision très terre, quoi, très matière brute de la terre, alors que Benoît, tu nous apportes vraiment une définition autour du vivant.
Oui. Là, dans mon usage du mot biomasse, c'est vraiment en rapport avec le vivant. Bio, c'est le vivant. Et c'est tout ce qui est... C'est le vivant lui-même et ce qui est produit par le vivant, y compris ses déchets, d'ailleurs, qui rentrent sous l'appellation biomasse. Et qui est quelque chose qui, a priori, a une dynamique cyclique. C'est-à-dire qu'entre les êtres vivants, la biomasse circule, elle est consommée par l'un, elle devient des déchets, mais qui sera consommée par un autre être vivant. Jusqu'à sa minéralisation et son retour éventuellement, mais qui sera capturé ensuite par des bactéries, par des êtres vivants de ce type-là, qui réinjecteront ces ressources qui ont pu être minéralisées pendant un temps dans le cycle du vivant. Quoi. C'est effectivement l'idée d'être beaucoup plus attentif à la place du vivant et au ses rapports avec le vivant. À tous ces vivants non humains, comme on dit maintenant souvent, c'est l'expression qui est bien privilégiée par un type comme Descola, par exemple, tous ces vivants non humains qui contribuent finalement indirectement et dont on a essayé de se détacher avec ce métabolisme minier, en fait, dont on a essayé de se détacher en utilisant au maximum des processus physico-chimiques reposant sur ces ressources minières. Et marginalisant de plus en plus le vivant avec cette contrainte absolue, que je considère comme absolue, qui est la production de déchets et que le vivant n'arrive plus à traiter et qui nous étouffe aujourd'hui. L'exemple le plus spectaculaire étant le réchauffement climatique.
Mais quand tu dis qu'on reste dans une... disons dans une ère où l'énergie à bas coût est disponible... Bon, aujourd'hui, on a un certain nombre d'éléments qui nous font penser que le pétrole n'est pas prêt de s'arrêter. Mais par exemple, le fait qu'il y ait un basculement sur l'utilisation d'énergie comme le solaire ou le vent, ça ne te paraît pas aussi des possibilités d'alternatives qui pourraient renverser la relation à la place de cette énergie minière dans la production agricole, mais pour la vie en général.
Je ne suis pas du tout un spécialiste des énergies alternatives. Ce que je sais, c'est que d'une part, effectivement, au cours actuel du prix du pétrole, ça met une pression sur toutes ces énergies alternatives très fortes, c'est-à-dire que ça les rend non compétitives pour une bonne partie d'entre elles. Hein, et du pétrole, en fait, il y en a, et du charbon, il y en a encore plus. C'est ça qui est affreux, d'une façon, c'est que le problème, il ne sera pas du côté de la ressource, il sera du côté du déchet. Et du déchet, du CO2 en particulier, de la saturation de ce qu'on peut appeler les puits à déchets, et pour lequel il n'y a aucun mécanisme de marché qui permette de freiner ça. Enfin, si le pétrole se raréfie, son prix va augmenter et d'autres solutions alternatives pourront être en mise en place. Du côté des déchets, le propre d'un déchet, c'est qu'il y a pas, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose qui est mis dans le domaine public, dans l'espace public, et pour lequel il n'y a pas de prix. Et donc, pour lequel il n'y a aucun... Alors, on peut essayer de bricoler des marchés du carbone comme on a fait ces dernières années, mais visiblement, ça ne marche pas. Et donc, il n'y a pas de force de rappel dans une économie marchande sur les déchets. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est la réglementation, c'est les contraintes, c'est les techniques, mais le marché lui-même ne peut pas freiner ce processus-là. L'autre chose, c'est que les énergies alternatives ne sont pas sans générer elles-mêmes des déchets. On le sait, hein, on en parle de plus en plus, mais enfin, pour tirer tous ces métaux rares dont on a besoin pour faire des panneaux solaires ou des éoliennes, eh bien, il y a besoin de faire des grandes mines, des grosses mines qui génèrent... Alors là, la mine, c'est la caricature du déchet, c'est-à-dire que de la génération de déchets. Pour tirer un kilo d'un matériau intéressant, on va manipuler et générer une quantité de déchets incroyable qu'on va laisser sur place et sans... en ayant détruit le lieu où on a mené cette exploitation.
Pour la suite de cette thématique, donc là, on a parlé des ressources minières dans l'agriculture. Tu vas ensuite resituer ça au niveau de l'économie mondiale. Est-ce que tu peux nous faire peut-être alors soit une introduction pour l'émission prochaine, soit peut-être une première partie qui pourra se poursuivre après dans l'émission d'après.
Ok, bien sûr. Merci. Et oui, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'interpréter ces transformations dont j'ai parlé dans les deux émissions précédentes en lien avec les grandes étapes de l'histoire des rivalités internationales à l'échelle mondiale, en fait à l'échelle de l'économie monde européenne, disons. Ça veut dire que je ne prétends pas parler du monde entier. Il y a toujours eu des parties du monde qui ont échappé à l'influence européenne, mais il y a eu une époque, depuis 3 siècles environ, où l'Europe a pesé très lourd à l'échelle mondiale et où ce qui se passait en Europe et entre les pays européens avait des conséquences sur beaucoup de lieux sur la planète. On peut raconter cette histoire des rivalités internationales, des rivalités intra-européennes, en fait, et des pays, ce que certains auteurs appellent les néo-européens. Les néo-européens, c'est les États-Unis, c'est les Australiens, les Canadiens, les Argentins, on pourrait les mettre chez les néo-européens aussi. Donc, ils sont des extensions de l'Europe, en fait, hein, au-delà de l'Europe. Ces rivalités, en fait, elles se sont stabilisées au cours de 3 temps particuliers. Si on part du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, il y a eu 3 temps de stabilisation de ces rivalités dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler des situations hégémoniques, c'est-à-dire des situations où un pays était en situation d'être un hégémone. Un hégémone, c'est quoi ? C'est un pays qui domine, en fait, à l'échelle mondiale, qui domine économiquement et militairement. Alors, à l'échelle, quand je dis mondiale, toujours pareil, de l'économie monde européenne, qui domine, mais qui ne se contente pas de dominer militairement, disons, mais qui en même temps va définir des règles, des relations internationales, qui obtient, pour lesquelles il va obtenir l'adhésion des autres, en fait. Dans la dimension d'hégémonie, il y a une adhésion, en fait, d'une partie des membres du jeu. C'est-à-dire que l'hégémon arrive à convaincre les autres, d'une certaine façon, que ses intérêts se confondent avec ceux des autres, ou que les intérêts des autres sont les mêmes que les siens. Et il va définir, et en particulier, ça va se traduire sous la forme d'un certain nombre d'institutions, de règles que tout le monde va accepter de respecter dans le jeu des relations internationales. Donc, ce n'est pas seulement une question de puissance militaire ou même économique, c'est aussi une question d'idées. Hein. La notion d'hégémonie, elle vient d'un auteur communiste italien qui s'appelait Gramsci, en fait. Et qui laisse toute une place au rôle des idées dans les phénomènes de domination. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement parce qu'on est très fort et qu'on peut taper fort, qu'on est dominant, qu'on est hégémone, mais c'est aussi parce qu'on a des idées, on a une vision du monde qu'on va arriver à faire partager aux autres, on va faire adhérer les autres, et finalement on va légitimer sa domination à partir de ces idées-là. Et au niveau international, on a eu des situations hégémoniques à l'échelle internationale dans l'économie monde européenne. On en a trois dont je vais parler. Si on part seulement du XVIIe siècle, on pourrait remonter avant, mais en fait, l'économie européenne n'était pas du tout la même. On a eu les provinces unies, c'est-à-dire les Pays-Bas, pour le XVIIe siècle. On a eu le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre au XIXe siècle. Et puis les États-Unis, entre 1945 et peut-être aujourd'hui. Avec une question, mais qui est une question qui traîne depuis un moment déjà, savoir si on est sur une situation de fin d'hégémonie américaine ou pas. Donc on a eu ces trois situations d'hégémonie. Et ce que je voudrais essayer de montrer dans la suite de l'exposé, dans la suite de cette émission, c'est qu'on peut associer à chacune de ces situations hégémoniques un certain rapport à la biomasse, et que les transformations dont j'ai parlé la fois précédente, en fait, peuvent être relues au regard de cette succession d'hégémones. Et en particulier que les transformations et les rapports à la biomasse, en fait, naissent pour l'essentiel au moment des périodes interhégémoniques. C'est-à-dire entre deux hégémones, en fait, on a une période de rivalité ouverte, on a une période de guerre, le plus souvent. Et que c'est dans ce contexte de guerre que va naître une nouvelle configuration du rapport à la biomasse. Que vont naître une nouvelle façon de produire de la biomasse, que va naître une nouvelle façon d'utiliser la biomasse. Et c'est ça un peu le jeu que j'essaye de mener pour raconter les transformations de l'agriculture. Je vais donc essayer, pour chacun des hégémones, de raconter quels étaient ses rapports à la biomasse et comment, dans la période suivante, qui était une période de rivalité, ces rapports ont pu changer. Il reste 5 minutes. Donc je vais juste dire 2 mots de la première situation, celle de l'hégémonie des provinces unies, qui est typiquement une situation où on est encore dans un métabolisme solaire, c'est-à-dire que, j'en parlerai, il y a un tout petit peu d'énergie en fait, qui provient de ressources un peu minières, c'est un peu particulier, mais l'essentiel de l'énergie et de la matière qu'utilisent les provinces unies, c'est de la biomasse, c'est lié au soleil. Ce qui va vraiment fonder, ce qui va permettre aux provinces unies de se démarquer des autres, de ses rivaux à l'époque, et de devenir plus riches et plus puissants que les autres, c'est le fait d'être là où il est, c'est-à-dire d'être au milieu de l'eau, en fait. D'être au milieu de la mer du Nord, d'être à côté de la mer du Nord, d'être dans l'eau. Amsterdam, c'est dans l'eau. Les provinces unies, même généralement, sont dans l'eau. Et de pouvoir pleinement utiliser de ce point de vue-là le vent et la mer pour transporter sur des longues distances beaucoup de choses et de le faire sous forme de commerce à longue distance, de produits de base. Alors ça peut être des harengs, du bois, du grain, de la laine, du lin, mais aussi des épices qui vont venir de l'Asie. Progressivement, les provinces unies vont arriver à prendre le contrôle de ces circuits d'approvisionnement en provenance de l'Asie, évincer les Portugais et récupérer donc les épices qui avaient tant de valeur dans le commerce à l'époque. La particularité des provinces unies, c'est à la fois d'être dans l'eau et d'arriver à maîtriser très bien le transport maritime, en maîtrisant très bien, donc avec un type de bateau particulier qu'on appelait les flûtes, et qui va lui permettre d'aller chercher, y compris des produits pondéreux, des produits de base, dans la Baltique, jusqu'en Pologne, à Gdansk, ou jusqu'en Russie, et donc y compris pour son alimentation de base, par exemple, de dépendre en bonne partie d'importations de céréales. On considère qu'à Amsterdam, au XVIIe siècle, au milieu du XVIIe siècle, la moitié des céréales consommées à Amsterdam étaient importées de Pologne, ou étaient essentiellement de Pologne. Mais les provinces unies avaient un énorme bassin d'approvisionnement extrêmement important qui était la Baltique d'abord, donc qui donnait accès à la Pologne, qui donnait accès mais aussi à la Finlande, à la Norvège, où beaucoup de bois était importé, mais aussi du goudron par exemple pour faire les bateaux. Enfin, toute une importation massive en fait, vraiment massive de biomasse. cette situation donc s'accompagne d'une agriculture en fait à haut rendement, avec des très grandes valeurs ajoutées. En fait, il y a une urbanisation de la société des Provinces Unies qui est très importante. Hein. Il y a 30 à 40% de la population qui est urbaine dès le XVIIe siècle. Et en fait, on a une relation très synergique entre la ville et les campagnes. C'est un constat qu'on peut faire historiquement aussi, c'est que les agricultures s'intensifient sous l'effet des villes, très souvent. Et là, dans le cas des Provinces Unies, on a typiquement cet exemple. Et puis, je vais arrêter parce que c'est l'heure de la fin de l'émission. Les Provinces Unies bénéficient malgré tout d'un joker qui est la tourbe. Qui est la tourbe, qui est une ressource en partie fossile. Hein. La tourbe, c'est des plantes qui poussent et qui commencent à fermenter sous l'eau et qui font un espèce de pré-charbon, en fait. Et les Provinces Unies utilisent beaucoup ça pour faire fonctionner qui la raffinerie de sucre, qui la fabrication de briques, etc., etc. J'arrête là.
Et oui, toujours le même challenge dans cette émission. Merci beaucoup Benoît d'Aviron, Dominique Paturel. C'était la Chichoumaille de Résistance. Et si vous voulez réécouter cette émission, c'est sur rphfm.org.